Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier.
Quand ?
Toujours la même heure.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Chouette !
Chouette ! Le 13-30.
Bonjour à tous, les éditions Les Liens qui libèrent viennent de publier en mars dernier un livre qui a pour titre « Sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le pire tout pire ». C'est un livre entretien avec Michel Bowens, entretien par Jean Livens. Michel Bowens qui est cofondateur de la fondation Pire tout pire et un des théoriciens du pire tout pire. Il est avec nous dans les studios. Bonjour Michel Bowens.
Enchanté, content d'être ici.
Michel Bowens, ce livre qui a pour titre « Sauver le monde ». On pourrait le prendre comme un livre d'anticipation à partir de nouveaux modèles existants. Et ces nouveaux modèles sont des nouveaux modèles économiques, politiques, spirituels et philosophiques. En somme, une sorte de révolution culturelle. Et vous pensez le peer-to-peer finalement comme un fait social total, à la manière de Marcel Mauss. Peut-être pour commencer cet entretien, Michel Bowens, nous rappeler les fondamentaux du peer-to-peer. Qu'est-ce que le peer-to-peer ?
Voilà, alors dans mon entendement, parce que c'est un concept autour duquel on se bat si on veut, c'est comme la durabilité et tous ces mots, ça, différentes personnes vont donner différentes significations. Donc dans le sens où nous l'emploie, c'est en premier lieu une dynamique relationnelle. Donc par rapport au système pair à pair qu'on a connu dans l'informatique, donc c'est un système qui permet à chaque ordinateur, dans ce cas-là, de se connecter à tout autre ordinateur sans serveur central. Si on met ça sur l'humain, c'est un système social où chaque personne peut se connecter avec toute autre personne sans demander la permission, communiquer, s'auto-organiser, mais aussi, c'est très important, créer de la valeur ensemble. Et donc là, on va du peer-to-peer à la notion du commun, c'est-à-dire collaborer volontairement par des contributions pour créer des biens communs qui sont partageables par tous.
Alors justement, peut-être pouvons-nous enchaîner sur ce deuxième mot-clé important qui est les communs. Il faut penser le commun, non pas à partir de l'objet, mais à la manière dont on produit en fait un commun. C'est une manière de faire, c'est cela ?
Oui, c'est ça, parce qu'on dit par exemple la nature est un commun, mais c'est faux, parce que nature pourrait être un commun. Mais en fait, ce qui fait un commun, c'est que c'est une ressource partagée qui est co-gérée par ses utilisateurs. Donc il y a des règles humaines, donc c'est un verbe aussi, c'est, en anglais on dit « there is no commons without commoning ». Donc il y a pas de commun si on fait pas du commun. Donc c'est pas l'objet, c'est ce qu'on fait avec l'objet qui rend l'objet un commun.
Par conséquent, si on est déjà dans une nouvelle manière, ou en tout cas penser une manière de produire, on voit, et notamment c'est le sous-titre de votre ouvrage, vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer, parce que quoi en fait ? C'est que c'est une nouvelle manière de produire.
Oui, c'est ça. Alors, quand on va prendre le système qu'on a aujourd'hui, qu'on peut appeler le système capitaliste, donc c'est le fondement, c'est quoi ? Ce sont des personnes privées, travail ou capital, qui vont créer de la valeur privative. Donc, ils vont faire des échanges marchands, travail contre salaire, objet contre prix. Et ils ne vont pas se soucier des externalités, c'est-à-dire des dégâts potentiels que peut faire la transaction, parce qu'elle est basée sur l'intérêt mutuel de deux personnes, par exemple. Et donc, on a besoin d'un État qui va de l'extérieur réguler le marché, parce que de l'intérieur, le marché ne se régule pas. Quand on voit le système de pair à pair, vu comme système de création de valeur, donc comme système productif, comme mode de production, on voit que ce sont des contributeurs, payés ou non payés, qui créent des communs. Donc, ce n'est pas du travail qui crée de la marchandise, c'est des contributeurs qui créent du commun. Et ça, c'est déjà du post-capitalisme. C'est déjà, on n'est plus dans une création de marchandises, mais le commun qui existe aujourd'hui, évidemment, il émerge à l'intérieur du capitalisme. Donc, il est entouré de pratiques de captation de la valeur. Donc, vous avez en bref, vous avez une communauté productive qui peuvent être des salariés, des auto-entrepreneurs, mais aussi des volontaires. Vous avez autour de cela, vous avez une coalition entrepreneuriale qui peut être capitaliste, mais qui peut aussi être non capitaliste, qui pourrait être par exemple des coopératives, l'économie solidaire, etc. Et puis il y a aussi des fondations. Donc, ce qui est intéressant dans les fondations open source, c'est que ils ont une autre vision du monde que celle des ONG. Une ONG, elle vit dans la rareté, c'est-à-dire il y a un problème, on va mobiliser des ressources qu'on va diriger vers ce problème, mais c'est une vision de rareté, tandis que les nouvelles fondations, il y a un problème, il y a assez de gens qui peuvent contribuer, donc on va créer une infrastructure de coopération qui permet aux gens d'adhérer à ces plateformes.
Alors, je m'autorise comme ça à revenir sur ces aspects, disons, post-capitalistes à l'intérieur du capitalisme. Oui. Vous précisez donc qu'on passe finalement du travail à la contribution, d'une certaine manière, et de la marchandise au commun. Ce qu'on produit n'est plus de la marchandise, mais du commun. Il y a aussi un autre aspect qui est au niveau de l'organisation du travail. Cette organisation, on n'est plus du côté de la division du travail, mais quoi, de la distribution des tâches dans le peer-to-peer.
Oui, c'est ça. Donc, avec un mot difficile, on appelle ça la stigmergie. Donc, c'est le langage par signaux des insectes, des insectes sociaux, les fourmis, les abeilles. Donc, pour expliquer ça d'une façon assez simple, vous allez sur le Wikipédia et vous êtes un bouddhiste thérévadique. Vous regardez l'article et il ne vous plaît pas. Il y a une erreur ou ce que vous croyez être une erreur. Dans un système fermé, on ne peut rien faire. Mais dans un système ouvert, c'est un signal pour contribuer. Donc, je peux librement aller changer cet article. Et donc, on voit qu'il y a en anglais, on dit des social artifacts, donc des artefacts sociaux d'une grande complexité, des encyclopédies, des logiciels libres, voire des satellites, des voitures qui sont coordonnées de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de command and control, comme on dit en anglais, il y a du contrôle après coup, mais la contribution est libre. C'est ça qui est très important et c'est très nouveau.
Mais peut-être, lorsque vous parlez de post-capitalisme, il y a encore le capitalisme. Donc, oui. On est dans une société, disons, hybride pour le moment. Et ces modes de production, ils sont prototypes, d'une certaine manière.
Voilà, ce n'est pas un mode de production complètement organique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas encore se reproduire complètement par lui-même.
Il a besoin du capitalisme encore.
Voilà, alors on peut faire un parallèle historique, une analogie, si on veut. Donc, au fin du 19e siècle, le capitalisme achetait les machines, vendait le produit, la matière brute aux ouvriers des guildes, les artisans, et leur achetait. Donc ils avaient encore besoin de l'ancien régime pour exister. C'est au moment où on a cassé l'artisanat, on a cassé les guildes, on les a interdits, on a chassé tous les agriculteurs de leurs terres. C'est seulement à ce moment-là que le travail est devenu marchandise. Donc à ce moment-là, le capital est devenu organique. Alors aujourd'hui, le commun, il a besoin de la richesse qui est créée par le capitalisme et il ne se reproduit pas indépendamment. Et donc, la clé aujourd'hui du succès pour le futur, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut rendre l'économie du commun plus autonome et comme un système organique, en fait?
Parce que cette économie des communs, si elle s'appuie, en tout cas, elle s'appuie sur des contributeurs, ces contributeurs, il faut bien effectivement qu'ils soient payés d'une certaine manière. En tout cas, se pose la question de la redistribution des richesses vers ces contributeurs. Aujourd'hui, lorsque vous parlez, par exemple, dans cet ouvrage ou d'autres, je pense à Bernard Stiegler aussi, surtout Bernard Stiegler qui défend une sorte de revenu contributif, cet argent, elle s'appuie sur des gains de productivité immenses aujourd'hui produits par l'automatisation, c'est-à-dire le capitalisme. Donc, comment aujourd'hui, finalement, rémunérer les contributeurs sans le capitalisme?
Oui, mais alors, ce qu'il faut bien voir, c'est d'abord ça, c'est-à-dire que il est correct de dire qu'aujourd'hui, les communautés des communs dépendent du capitalisme, mais il faut aussi dire le contraire. C'est-à-dire que le capitalisme dépend aussi de plus en plus de cette collaboration humaine.
Comme Facebook, par exemple.
Voilà, Facebook ne produit plus de la communication. Google ne produit pas des documents, YouTube ne produit pas des vidéos. Ils mettent ensemble des gens qui produisent. Et donc, ils captent la valeur marchande de cette collaboration humaine. Mais même une entreprise, aujourd'hui, quand on voit sa valeur matérielle, C'est 20% de la valeur boursière. Les 80% restants, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Et une des thèses à laquelle je crois que ce surplus, ce goodwill, comme on dit parfois dans le jargon boursier, c'est en fait c'est déjà cette collaboration humaine. Alors donc le problème est, moi je le définis comme ça. Donc moi je suis un contributeur et je contribue au commun. Je suis un développeur logiciel libre, par exemple. Mais pour en vivre, je dois être salarié ou entrepreneur dans le marché capitaliste. Et donc, je ne peux pas me reproduire à l'intérieur même de ce nouveau mode de production. Alors, quelle est la solution ? Pour moi, elle est dans la création d'une sphère marchande non capitaliste. C'est-à-dire des coopératives ouvertes, donc c'est que la même personne qui crée du commun crée sa propre entreprise équitable qui co-crée du commun. Donc une coopérative ouverte, je la définis comme une coopérative qui co-crée du commun. Donc elle a des licences ouvertes ou des licences à réciprocité renforcée, c'est une autre option. Et donc son but n'est pas une accumulation du capital pour les actionnaires, elle est de faire vivre les gens qui contribuent au commun.
Mais comment vient le capital quand même ? Malgré tout, il y a besoin de capital pour vivre d'une certaine manière.
Oui, alors aujourd'hui, on a évidemment pas mal de problèmes autour de ça. Premièrement, le capital est hyper concentré et il n'est pas du tout disponible où on en a besoin. Donc ça, c'est on va dire la face négative. Et donc là, il y a tout un combat à mener contre la captation par le système financier qui réinvestit dans la spéculation et qui n'investit plus aujourd'hui dans la production. D'un autre côté, ça c'est la face positive, c'est quand même que les citoyens ont quand même des ressources eux-mêmes. Donc c'est-à-dire on peut penser différemment, on peut penser, bon, si on n'a pas le pouvoir de changer la logique du capital aujourd'hui, on peut mutualiser nos infrastructures. Alors il y a des exemples, par exemple, en Émilie-Romagne, on appelle ça des coopératives de solidarité. Donc il y a une loi cadre qui permet ces coopératives dans le domaine du soin. Ils sont totalement dominants dans ce domaine-là. Ils doivent garder 3% de leurs revenus dans un fonds commun. Mais, du coup, le grand problème des coopératives du nord d'Italie, c'est où mettre leur argent. Alors une chose que moi je critique aussi, hein, l'éthique, la finance éthique et tout ça. Bon, on fait par exemple la voiture Wikispeed qui est 5 fois... qui dépense 5 fois moins d'énergie qu'une voiture industrielle.
C'est quoi la voiture Wikispeed ?
C'est une voiture qui a été co-créée par 200-300 personnes dans une douzaine de pays.
Dans cette logique du pair à pair.
C'est un design partagé avec des machines 3D et du même genre qui permettent donc de fabriquer la voiture sur commande dans une usine collaborative, une micro-fabrique collaborative. Alors, si vous cherchez des investisseurs pour passer à une échelle plus grande, mais qu'est-ce que, par exemple, Triodos, la banque éthique, va vous demander ? Elle va vous demander du collatéral, c'est-à-dire des brevets. Or, par définition, ils n'ont pas de brevets. Et donc là, on a un problème. Donc on a un problème de capital, vous avez tout à fait raison, que c'est un des problèmes clés.
Parce que c'est un point important sur la pensée des communs, c'est que les communs ne supportent pas d'une certaine manière la propriété intellectuelle, puisque la propriété intellectuelle produit de la rareté, alors que le commun s'appuie sur la logique de l'abondance, donc pas de propriété intellectuelle, pas de brevet.
Tout à fait. La seule forme de propriété intellectuelle qui est reconnue par les communautés open source, c'est les trademarks, donc on dit ça en français, les marques, en fait. Pourquoi ? Parce que ça protège une qualité. Hein, par exemple, le vin balsamique, tout le monde peut en faire, mais on peut seulement l'appeler vin balsamique quand on a suivi certains critères. Donc ça, c'est en général, c'est accepté. Ce qui n'est pas accepté, c'est de privatiser une avancée technologique, parce qu'en fait, on trouve ça immoral. Donc ça s'est passé dans les années 70. On avait l'énergie renouvelable en Californie, on avait même des voitures électriques. Les entreprises du pétrole ont racheté les brevets, ont fermé les entreprises, ont détruit physiquement les voitures. Donc 30 ans de non-développement, et aujourd'hui dans un contexte de crise écologique, de crise de climat, c'est absolument impensable de privatiser une avancée et de la mettre au placard. Donc il faut que ces avancées soient partagées par toute l'humanité. Mais c'est bon pour les business, ça veut dire que tous les entrepreneurs, tous les citoyens peuvent utiliser cette avancée et y bâtir de nouveau dessus. Pensez un peu à l'imprimante 3D. Pourquoi est-ce que ça avance aujourd'hui ? C'est très clair. Ça a commencé quand le brevet s'est terminé. Donc il y a eu 20 ans de brevets où il y a eu très très peu d'innovation. Personne ne connaissait même la technologie. Le jour où le brevet est tombé, on a une éclosion d'innovation. Donc les brevets sont anti-innovateurs, c'est vraiment une force.
Parce que dans ce livre-là, donc aux éditions Lilien Quilubert, Sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer, vous faites aussi comme ça un travail d'une certaine manière de critique de l'économie actuelle, où vous expliquez en fait que finalement la rareté et l'abondance sont des choses créées artificiellement.
C'est ça. Alors il y a peut-être de la vraie abondance et de la vraie rareté, mais il y a une différence entre considérer le marché comme une technique pour allouer des ressources par le technique du prix, et ce que fait le capitalisme, qui est une ingénierie de la rareté. Donc l'obsolescence planifiée, c'est une ingénierie de la rareté. Donc quand on fait par exemple un panel solaire, on fait en sorte qu'il casse en 5 ans. Même les ordinateurs verts aujourd'hui, c'est 2 ans et demi, c'est fini. Et donc c'est systémique. C'est systémique parce que dans les départements de recherche d'une entreprise, on doit maintenir cette rareté, sinon on détruit le marché.
Et ce que fait les droits de propriété intellectuelle, notamment sur le partage de la culture, c'est opérer aussi une rareté des produits culturels d'une certaine manière.
Voilà, c'est le même phénomène. Et alors donc nous on plaide pour deux choses différentes. La première chose c'est les open business models. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti en France, qui je crois qui est très bien, c'est Without Model, ou Open Model.
C'est un modèle basé sur l'open source ?
C'est ça, c'est en fait, comment est-ce qu'on peut créer une vie économique sans rareté artificielle, donc sans détruire l'abondance naturelle, mais en trouvant des services à valeur ajoutée qui apportent au commun sans le casser. Et puis, on doit peut-être sans doute aussi réfléchir à des politiques publiques, comme Philippe Aigrin, qui a écrit un livre sur l'économie du partage et qui a des propositions au niveau des politiques publiques. Et par exemple, Stigler, qui parle de généraliser la structure des intermittents, parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient créatif.
Alors, justement, parce que dans cet ouvrage, vous déclinez peer-to-peer et économie, peer-to-peer et politique, peer-to-peer et philosophie, peer-to-peer et spiritualité. C'est en cela où c'est une vraie, d'une certaine manière, révolution culturelle. Alors, sur le peer-to-peer et politique, vous essayez d'imaginer un nouvel État, d'une certaine manière, qui ne soit plus l'État-providence, mais un État partenaire.
Oui, voilà. Alors, donc, moi, je n'ai rien contre les utopies, parce que les utopies, ça stimule l'imaginaire. Mais je préfère quand même des utopies réelles, c'est-à-dire des utopies qui sont basées sur des vraies pratiques émergentes. Donc, on ne doit pas s'imaginer qu'un jour, ce sera possible. On le voit déjà. Donc, mes idées, je veux quand même dire ça avant d'expliquer, elles sont vraiment basées sur des institutions existantes qui sont déjà là au niveau microéconomique et qu'on peut... On peut étendre. Alors, par exemple, donc l'État partenaire, ça vient d'où ? Ça vient de la vision de ces fondations que je vous ai expliquées. Donc, des fondations open source qui ne dirigent pas la production, mais qui la rendent possible. Ils sont des entités facilitatrices. Et on peut donc imaginer que la communauté productive, c'est les citoyens deviennent producteurs. Donc, tous les citoyens produisent du bien commun, deviennent productifs. On a une économie éthique macroéconomique qui tourne autour de ces communs. Et on a des collectivités, des institutions collectives qui managent, rendent possible ces activités-là. Donc qui renforcent l'autonomie individuelle et sociale des citoyens.
Est-ce que cet État partenaire, on pourrait aussi l'appeler l'État fondation d'une certaine manière ?
Oui, dans ce sens-là, oui. Et en fait, peut-être de vous donner un exemple, c'est à Bologne, c'est un micro-exemple, mais c'est important. Donc à Bologne, il y a un règlement qui s'appelle le règlement de Bologne pour le soin des communs urbains. Alors, ça sonne mieux en anglais, Bologna Regulation for the Care of the Urban Commons. Donc ça permet à tous les collectifs citoyens, quartier par quartier, de proposer des avancées pour leur quartier. Il y a un petit processus évaluatif et il y a une négociation entre la ville et le collectif citoyen, pour comment est-ce qu'on peut vous aider pour réaliser cette amélioration. Donc on voit bien qu'on est dans une logique d'un État tout à fait différent. Donc on a une vraie ville partenaire qui a déjà, sur un an, agrégé 30 projets à soutenir.
Michel Bohen, c'est cela aussi qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'en fait, vous partez des cultures digitales pour sortir en fait, du champ strictement numérique. Et là, on voit sur cet exemple sur les comment construire la ville en fait, avec les citoyens, toutes ces dynamiques aussi très présentes, par exemple, à Marseille et qui intéressent beaucoup Radio Grenouille sur les logiques de co-construction, justement, ou de conseils citoyens qui peuvent avoir aussi une part de co-décision ou de participation. C'est cela aussi que vous englobez dans votre pensée.
Oui, tout à fait, parce qu'on voit déjà... Alors, je connais mal Marseille, hein, je dois m'excuser. Je suis venu, c'est la deuxième fois que je viens et je ne connais pas très bien le local. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est la capitale des problèmes et ça peut aussi être la capitale des solutions.
Exactement, de l'innovation, en tout cas.
Donc, c'est très bien dit. Alors, à Grenoble, donc, vous avez une coalition rouge-verte. En général, ce sont les meilleures coalitions pour le commun. On peut remarquer ça dans plusieurs villes. Et j'ai lu une interview dans le Nouvel Obs, d'ailleurs, cette semaine, où l'Obs, c'est toujours l'Obs, je crois. Donc, où il explique que toute la vision de la politique à Grenoble, c'était d'aider et de suivre les collectifs citoyens. Donc là, on voit déjà une réflexion sur la politique qui donne une autre logique à la politique, une politique facilitatrice. Donc là, ce n'est pas l'État. C'est le Front de Gauche et les Verts qui sont laissés inspirer par les initiatives citoyennes. Et c'est ça l'assise de cette nouvelle majorité.
Parce qu'en fait, c'est s'appuyer aussi sur la part d'expertise que chaque individu, en fait, a une part d'expertise.
Voilà. Donc, on appelle ça chez nous l'équipe potentialité. Donc, c'est de plus comparer les individus en tant que tels, c'est-à-dire je suis meilleur que toi parce que j'ai un doctorat. C'est plutôt dire... Est-ce qu'on ne peut pas faire un système social ouvert et transparent qui me permet, moi, d'adhérer librement avec mon expertise et toi avec ton expertise ? Parce qu'il y a des choses où tu es meilleur que moi et il y a d'autres choses où moi je suis meilleur que toi. Ça ne nous rend pas des meilleurs humains, mais ça nous permet d'apporter notre brique à un projet collectif. Et donc on est reconnu par rapport à ses contributions à ces projets collectifs. Donc c'est une nouvelle forme d'identité aussi, parce que, par exemple, vous parlez aujourd'hui d'un jeune à Amsterdam ou à Berlin, il ne va pas dire « je travaille chez Microsoft ». Il va dire « je fais du Linux » ou « je fais du Drupal ». Donc il est déjà identifié à sa contribution. Il ne mentionne plus la firme pour laquelle il travaille. Alors, j'étais au Brésil, c'est encore plus fort. Là, il y a des gens qui me disent « je suis peer-to-peer ». Donc là, on est déjà dans un sujet politique et social qui affirme son identité par rapport à ses valeurs du commun.
Mais finalement, cette manière comme ça de s'engager sans contrainte dans le travail de production de commun, d'égal à égal, on pourrait se dire, mais c'est ça l'autogestion. Il n'y a plus forcément nécessairement besoin de l'État.
Oui, mais enfin, c'est vrai et c'est assez bon. C'est un point de vue qui est assez partagé. Mais moi, je m'élève un peu contre. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je crois qu'il faut se méfier des absolutismes. L'absolutisme de l'État, c'est le fascisme. L'absolutisme du marché, c'est le néolibéralisme, voire l'anarcho-capitalisme, qui est très fort aussi dans le monde pair à pair. Mais il y a aussi l'absolu des communs, qui serait un communisme, c'est-à-dire tout doit être commun, tout doit être Et moi, je vois bien, par exemple, quand on observe vraiment l'émergence de cette pratique, on voit qu'il y a la communauté, il y a les entrepreneurs et il y a la fondation. Donc, il y a des institutions. C'est pas vrai que c'est uniquement des individus, on va dire, atomisés, qui librement font... On vit toujours en société, déjà. Et donc, forcément, moi, je crois qu'il faut des systèmes hybrides. Donc, moi, je dis, on va vers une société centrée autour des communs. Mais ça ne veut pas dire une société où il n'y a que des communs. C'est un peu à nous à déterminer. Parce que, par exemple, la propriété privée, on peut être contre. Mais c'est aussi un garant. Si vous êtes uniquement dans le collectif et le collectif prend une décision que vous n'aimez pas, si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas partir. Vous êtes esclave de la collectivité. Donc, ce que la dynamique pair-à-pair et open source offre, c'est cette liberté d'adhérence ou de non-adhérence à un projet collectif. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait les moyens individuels aussi, pas uniquement collectifs. Et souvent, je trouve que, par exemple, l'autogestion, c'est un peu le problème. On était toujours dans le processus de décision collectif, et c'était épuisant. Alors qu'en open source, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus organique. On contribue, on ne contribue pas. On négocie quand on a des problèmes. On crée une fondation démocratique pour les gros problèmes d'infrastructure, mais on crée toute une sphère de liberté en dehors de la démocratie, en fait. Donc c'est aussi post-démocratique, si vous voulez.
C'est important de préciser qu'il y a une dynamique anarcho-capitalisme dans le peer-to-peer. On le voit, c'est de manière très présente aux États-Unis, notamment avec le parti, j'oubliais le nom de...
Oui, Libertarian Party.
Ouais, les libertariens, qui effectivement sont pour une suppression totale de l'État. C'est que, en définitive, le modèle peer-to-peer, même s'il engage un nouveau mode de production, ne va pas par essence sauver le monde. Il faut quand même l'orienter d'une certaine manière, ce modèle.
Tout à fait. Donc dans mon livre, je décris 4 scénarios possibles qui sont déjà des scénarios existants. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais j'essaie de vous expliquer en vitesse. Donc il y a un axe vertical qui distingue le contrôle centralisé du contrôle distribué. Et une finalité pour le profit marchande versus une finalité d'utilité sociale. Donc ça donne 4 choix. Le premier choix, c'est infrastructure pair à pair, mais contrôlée centralement pour le profit. Ça nous donne Facebook, Google, etc.
Qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises les plus, qui ont les profits les plus importants aujourd'hui du monde.
Oui, alors c'est très clair pourquoi. Alors l'ancienne industrie, elle produisait des choses. Donc le tourisme, il faut bâtir un hôtel avant de pouvoir louer les chambres. Airbnb, elle prend l'existant, elle crée une plateforme pour mettre l'offre et la demande ensemble. Mais donc elle a des tout petits investissements, une très grande productivité par la plateforme du logiciel, et donc elle va capter énormément de valeur de cette façon-là. Mais dans mon analyse, c'était un peu parasitaire aussi, parce que donc, ce sont des systèmes qui captent la valeur. Bon, c'est vrai que dans le cas d'Airbnb et Uber, il y a quand même un retour. Mais bon, il y a beaucoup de précarité. Hein. Ce sont des systèmes, il n'y a plus d'assurance sociale, il n'y a plus d'assurance.
Et puis c'est des systèmes qui s'appuient sur de la précarité.
Voilà, exactement. Donc il faut bien voir, il y a un système social derrière qui est très dangereux pour la majorité des gens. Mais alors on regarde Facebook. Une plateforme vide, ça n'a aucune valeur. Et pourtant, elle capte 100% de la valeur et les co-créateurs de cette valeur, c'est-à-dire nous, on a 0%. Donc on est dans... C'est ça qui crée les révolutions. C'est-à-dire qu'on a une nouveauté qui émerge, un nouveau mode de production, et la superstructure ne suit pas. Et donc le pair à pair, paradoxalement, ça crée de la précarité dans le système capitaliste. Et donc, il faudrait... C'est ça la politique pair à pair, c'est comment est-ce qu'on met la superstructure en harmonie avec ce nouveau potentiel, parce qu'on ne veut pas le détruire non plus. C'est quand même bien que les gens puissent choisir leur activité, puissent suivre leur passion, puissent collaborer. Donc il ne faut pas être réactionnaire, il ne faut pas dire « Ah, c'est mauvais parce qu'il y a la précarité, et donc on n'en veut pas, on veut garder le vieux système industriel ». Ça ne marche pas, il est mourant.
En fait, il s'agit de réajuster d'une certaine manière là où la valeur est produite avec là où la valeur est monétarisée aussi.
Voilà.
Parce que effectivement, sur Facebook, ce sont tous les contributeurs de Facebook qui produisent de la valeur, mais seul Facebook remporte le profit de cette valeur. Voilà. Ce qui pose une question de la propriété des moyens de production. Parce que pour le coup, le moyen de production, c'est bien la plateforme, en fait, Facebook. Et elle est privatisée.
C'est ça. Mais en fait... c'est même pas une force matérielle, hein, c'est surtout une force d'organisation qu'ils ont, c'est-à-dire c'est l'effet réseau en fait. Donc par le fait qu'ils ont privatisé nos données, qui a quand même un avantage, c'est-à-dire moi je suis sur Facebook, alors bon, ma philosophie est la suivante, pour être en contact avec le public, j'ai besoin d'être là. Sinon je suis sur des trucs d'open source avec 10 personnes qui pensent comme moi. Franchement ça m'intéresse pas. Par contre, tout ce qu'on a fait en interne, on emploie des technologies open source. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas être dépendant au niveau de notre auto-organisation d'une plateforme privative. Donc, on l'utilise uniquement comme moyen de communication. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que au plus longtemps qu'on reste, au meilleur leur offre, au plus d'amis qu'on a, etc., etc. Et donc, le coût de quitter...
Il y a une dépendance.
Il y a une dépendance. Et alors moi, je crois que c'est déjà trop tard, en fait, pour des alternatives. Je peux me tromper. Et donc, je crois que c'est plutôt par cette auto-organisation qu'on doit procéder. C'est-à-dire, par exemple, nous, on emploie Lumio. Mais Lumio, c'est un logiciel de prise de décision démocratique pour des communautés virtuelles. On ne concurrence pas pour les consommateurs. Mais chaque fois que je rencontre une autre organisation qui est dans le commun, on dit « mais employez Lumio ». Et donc, du coup, on crée une contre-infrastructure qui est invisible aux médias, que même la plupart des consommateurs ne connaissent pas, mais qui crée toute une technologie indépendante de Facebook.
Mais en fait, par exemple, d'une certaine manière, sortir de la propriété privée des moyens de production, ce serait par exemple pour Facebook, faire en sorte que la plateforme Facebook, dans son infrastructure, elle soit pensée en modèle ouvert.
C'est ça. Alors, on peut penser différemment. Donc, il y a des gens... moi, j'ai un ami canadien, Tiberius, avec un nom très compliqué roumain, de Sensorica, qui veut aucune institution. Donc, c'est simplement une forme de comptabilité. Il appelle ça la comptabilité ouverte. Toutes les contributions sont cotées. Il y a un système karmique, si vous voulez, d'évaluation de pair à pair. Et si après, il y a... des ressources qui sont générées, par exemple des ressources monétaires, elles sont distribuées par rapport aux contributions. Mais moi, je suis plutôt pour des coopératives, mais des coopératives ouvertes, c'est-à-dire des coopératives qui co-créent du commun. Alors, il y a des nouveaux modèles de propriété que j'aime beaucoup, par exemple Fair Shares, donc propriété équitable, des actions équitables. Donc, c'est 10% pour les fondateurs, donc c'est une reconnaissance du travail de pionniers qui ont créé le... Zuckerberg, par exemple, il a quand même créé, donc on peut lui donner quelque chose. Et puis, trois parties égales pour la finance, les travailleurs et les utilisateurs. Donc ça, je trouve un bon système parce qu'il reconnaît, comment on dit ça en français, le stakeholders, le multi-partenariat, quoi. Tous les gens qui ont contribué se retrouvent dans la structure de l'institution qui gère la plateforme.
Vous proposez aussi une nouvelle type de licence des common license, c'est-à-dire que il y a différents types niveaux de licence, la licence disons libre et chacun peut prendre, retravailler, mais vous proposez une licence en disant elle est libre et y compris pour les entreprises. À condition qu'elle ne fasse pas de produits avec...
Non, c'est pas tout à fait ça. Non. Je vous expliquais. C'est peut-être pas... C'est un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord voir quel est le problème des licences libres. Alors, quand on est dans l'immatériel, c'est aucun problème. On peut faire du logiciel, comme en Italie. Je vis jusqu'à 40 ans chez mes parents. J'ai à manger, j'ai un endroit où dormir. Je peux écrire du code. Aucun problème. Enfin, j'ai caricaturé un peu, mais c'est quand même vrai. Par contre, si vous voulez faire du physique, la production physique, même avec une microfabrique, il faut un endroit, il faut du loyer, il faut les machines. Et donc là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire au plus communiste vos licences, au plus capitaliste les pratiques. Parce que si IBM se met dans le logiciel libre, il domine le logiciel libre, vu que c'est une multinationale. Donc c'est ouvert, oui, mais ce n'est pas solidaire. Et donc, si vous voulez faire la production physique, moi je propose donc des licences à réciprocité renforcée, ce qui veut dire que, oui, une firme privée peut participer, mais elle doit contribuer. Elle ne peut pas simplement puiser dans le puits sans qu'il y ait un renvoi d'ascenseur. Donc c'est un souci de réciprocité.
Juliette au bord de l'eau. Faut placerai le broche sur le dos. Couchant qui Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait un paquet de l'autre côté du miroir d'un café.
Vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8 et nous sommes avec Michel Bowens qui a publié ce livre Sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer. Michel Bowens qui est un des théoriciens du peer-to-peer et qui est cofondateur de la fondation Peer-to-Peer. Alors avec lui on est en train de comprendre en quoi le peer-to-peer en fait révolutionne les modes de production, et c'est en cela qu'il est inscrit d'une certaine manière dans du post-capitalisme, parce que ce qui caractérise le capitalisme c'est un certain mode de production, et ce qui caractérise le peer-to-peer c'est un autre mode de production, justement d'égal à égal, sans contrainte. Mais du coup on aurait pu aussi se dire mais finalement ce mode de production d'égal à égal il est antécédent à la logique de la culture digitale, pourquoi il revient aujourd'hui?
Oui, mais en fait, c'est une mise en échelle, c'est-à-dire le peer-to-peer a toujours existé et probablement c'était la première relation humaine dans le mode tribal, surtout dans au début de l'ère tribale. J'ai lu un livre il y a un certain temps, c'était La société contre l'État de Pierre Clastres, qui est un merveilleux livre qui montre comment les Indiens d'Amazonie ont activement agi par des règles contre la constitution d'une élite et d'un État. Et par exemple, quelques hommes vont à la chasse, ils reviennent avec le gibier, mais il y a des règles. Et en fait, le chasseur reçoit le mien, le moi de ce qu'il a chassé. Parce que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa famille, c'est pour la tribu. Et donc, c'est un commun, la tribu. Mais le problème, c'est que quand on fédéralise des tribus, quand on unifie des tribus, le grand va gagner du petit. Et donc le pair à pair a été marginalisé parce qu'il fallait, c'est soit des systèmes autoritaires, le capitalisme, le féodalisme, qui ont pu organiser à échelle l'humanité. Ils ont pu détruire les petites communautés. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus le cas, c'est-à-dire qu'un Wikipédia qui est basé sur une contribution volontaire va remplacer le Britannica. On voit la Wikispeed qui est capable de faire une voiture qui est 5 fois plus écologique que l'industrie classique. Et donc c'est ça qui est important. C'est pas seulement d'être tout le monde est beau, il est gentil et on est en égalité. Mais aujourd'hui on a l'échelle, la force de l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir organiser une production de masse à un niveau mondial, d'une façon meilleure que le capital.
À vous entendre, c'est que finalement, Internet est arrivé dans un monde fermé et Internet ouvert a permis en fait de réinvestir le commun qui avait d'une certaine manière été oublié.
Tout à fait. Et moi, j'ai ressenti ça personnellement. C'est-à-dire que, moi j'avais 10 ans en 68, donc j'étais quand même un peu... Mais j'étais un peu prémature, donc je me rappelle un peu les désirs qu'on a fait et tout ça. On a essayé des communes, on a essayé fait plein de choses. Et il y a quand même très peu de choses qui ont réussi. Finalement. Donc on n'avait pas les outils et on n'avait peut-être pas non plus les capacités humaines. Et alors on nous a fait croire et on a cru que finalement il n'y avait qu'une chose qui marchait, c'est l'intérêt personnel. Or quand moi j'ai découvert l'Internet en 90, 93, pour moi tout de suite c'était mais c'est merveilleux. Je peux collaborer avec des gens dans l'autre bout du monde. On sait se mettre d'accord, on crée du commun. Et je trouve que, à mon avis, ça a eu un rôle culturel très très marquant. C'est un peu comme avec l'invention de l'imprimerie. Du coup, on peut lire la Bible soi-même. C'est un choc. Ah, mais le prêtre, c'est peut-être pas juste ce qu'il a dit, parce qu'ici, il y a marqué autre chose. C'est ça, c'est un choc culturel. Et puis, on s'est demandé, mais si ça marche là, pourquoi ça marche pas dans le reste de notre vie? Donc, moi, je crois quand même que c'est pas uniquement l'outil, hein, on se comprend bien. Moi, je suis pas technocratique, il n'y a pas de la magie de l'outil uniquement. C'est l'appropriation de l'outil par le désir humain, par des mouvements, par des projets, par des... C'est ça qui est important. Et donc là, je parle de l'hyperproductivité du mode pair à pair. Et si vous voulez, je peux peut-être vous expliquer en gros ce que ça veut dire. Donc moi, je reconnais trois révolutions dans la productivité. C'est-à-dire la première, c'est l'invention de la coercion, la force. Donc l'esclavage, ça crée des cathédrales, des temples, des villes qui n'existaient pas dans le monde tribal. Donc c'était productif. On peut critiquer, mais en tout cas, ça a créé la civilisation. Et c'était motivé par la peur, c'est-à-dire la punition. Quand on voit le capitalisme, qu'est-ce qu'il apporte? Ben, il apporte l'intérêt mutuel. Donc, il apporte quelque chose de plus. C'est pas uniquement la force. C'est aussi, mais tiens, si tu échanges avec quelqu'un d'autre, tu reçois de l'argent et donc vous avez un intérêt mutuel. Et ça donnait une deuxième explosion de la productivité humaine. Aujourd'hui, on a des systèmes qui travaillent avec la motivation intrinsèque. Je collabore parce que j'ai envie de collaborer. Donc on est 100% motivé. Chacun connaît son expertise, etc. Et donc du coup, on voit que ces systèmes contributifs marchent mieux et vont plus vite.
Par contre, cette motivation intrinsèque, on peut se dire aussi qu'elle peut être de passage, elle peut être culturelle au sens où elle peut être liée à une époque. Comment s'assurer que cette motivation intrinsèque, elle va perdurer? Parce que celle de la contrainte, elle perdure tant que la contrainte est exercée. D'accord. Mais celle d'une motivation sans contrainte, elle peut être d'un phénomène de mode aussi.
Oui, alors non, je crois pas. Donc je crois qu'il y a trois éléments. Donc le premier élément, c'est cette technologie quand même qui existe et qui est là, donc qui fait en sorte qu'on peut faire des nouveaux choix qui existaient, qui étaient pas si faciles avant et qui sont facilités aujourd'hui. Deuxième chose, c'est à mon avis, c'est un profond changement culturel. Alors je peux me tromper, mais je vais vous dire en cours ma petite théorie pop. La génération 68, elle était en révolte. Donc, il y avait un système autoritaire. On s'est révolté contre ce système autoritaire, mais on n'avait pas été éduqué à la coopération. Et donc, on était dans le réactif, on était dans l'antagonisme, on n'était pas en capacité, si vous voulez. Alors, cette génération, elle a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, c'est sûr, mais elle a quand même fait une chose, c'est-à-dire elle a reconnu ses enfants comme des personnes. Et donc, même si on a eu des écoles néolibérales, etc., on a eu des enfants qui ont été éduqués dans l'autonomie. Moi, je crois que c'est ça qui a été très important. Et donc, cette autonomie avec l'outil, c'est ça qui fait le changement. Maintenant, le troisième facteur va être clé, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut perdurer? Et ça, c'est l'aspect économique. Donc, c'est là où on doit réussir à créer un système économique qui nous permet de vivre des contributions. Et ça, c'est pas gagné, ça, c'est sûr.
On voit aussi très bien comment ce modèle du pair à pair est un modèle d'une certaine manière d'une société sans classe qui pourrait être rêvée comme stade ultime du communisme. Et en même temps, on a le sentiment que la grande majorité des exemples s'appuient malgré tout sur une nouvelle classe qui est celle des travailleurs de la connaissance. Est-ce que, après la révolution de la classe bourgeoise, est-ce que ce que vous décrivez là, ce n'est pas finalement la révolution de la classe des travailleurs de la connaissance?
Alors c'est sûr qu'il y a un danger. Je vais peut-être donner un exemple. Donc au 15e siècle, avec l'imprimerie, donc il y avait déjà les gens qui savaient lire et les gens qui ne savaient pas lire. L'imprimerie, en premier lieu, a quand même créé encore une plus grande inégalité. C'est-à-dire les gens qui savaient lire, savaient encore lire plus qu'avant. Et donc, la distance avec les gens qui ne savaient pas lire est encore devenue plus grande. Donc, c'était un problème, c'est vrai. Et aujourd'hui, on voit ça avec Internet aussi. Par exemple, quand on fait le open data au niveau urbanistique, en Inde, les classes moyennes sont beaucoup plus capables de capter les avantages des open data que les gens dans les favelas. Mais est-ce que c'est un argument pour refermer les open data? Mais non, c'est un argument pour se mobiliser, pour mettre en capacité tous les autres. Donc il faut que cette classe cognitive, que moi je considère comme un vrai sujet politique, elle s'allie avec les autres opprimés pour le bien de tous.
Parce que on le voit parfois, je pense par exemple à la ville de Nantes qui a tenté de travailler sur des logiques de cluster de ces cités créatives, de ces quartiers créatifs, sur le modèle qui s'est développé aux États-Unis, où d'une certaine manière on rassemble un peu cette classe cognitive, c'est-à-dire des artistes, des ingénieurs, des designers, et bon, on les met ensemble et puis on crée une ville finalement pour ces nouveaux types de classes. Il y a un danger là au niveau de certaines politiques publiques aujourd'hui de ce côté-là.
Oui, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est une sorte d'isolation sociale. Donc on va mettre tous ces gens dans un petit coin et il n'y a plus de relation avec les autres. Donc ça, c'est le premier danger. Mais je crois aussi que ce modèle néolibéral, c'est quand même basé... On ignore les contradictions internes dans ce groupe. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan quelqu'un qui est précaire, qui contribue volontairement et qui a du mal à payer son loyer à la fin du mois avec un directeur d'une boîte de publicité qui fait ses 2 millions d'euros par an. Et ça, c'est totalement ignoré par ces propositions. Donc on ignore en fait... la classe cognitive, pour moi, c'est la classe des précaires. Les autres, ils ont les moyens de production. On est quand même d'accord, on n'est pas dans la même situation sociale.
En fait, on voit qu'avec ces clusters, ces quartiers créatifs, finalement, on est un peu sur le modèle Facebook, c'est-à-dire qu'on met ensemble des contributeurs qui vont produire de la valeur, et puis ensuite, on capte la valeur pour des profits, parce qu'au final, ces quartiers créatifs, c'est bien pour la ville de tirer un certain profit.
Oui, et puis ce qui se passe, vous savez aussi bien que moi, c'est-à-dire que quand ça marche, les loyers vont augmenter et finalement, tous ceux qui ont contribué à cette valeur collective vont devoir déménager vers le prochain cluster parce qu'ils ne savent plus se permettre de rester dans la ville originale. Donc ça pose la question des communs physiques aussi. Donc on peut penser commun non seulement au niveau open source, mais on peut penser commun, par exemple, Community Land Trust. Donc c'est-à-dire sortir du marché l'habitat, sortir du marché l'argent, sortir du marché la terre, voire sortir du marché le travail. Donc décommodifier ce qui était commodifié par... Je traduis l'anglais là, par le capitalisme.
Oui, ce qui a été codifié par le capitalisme, d'une certaine manière, le décodifier, quoi.
C'est ça, voilà.
L'extraire, voilà. Le décodifier voilà. Ou codifier.
Donc, faire en sorte, par exemple, que le logement reste abordable parce qu'il est en une propriété en commun. Donc on rentre dedans, on paye son loyer, voire on l'achète. Mais quand on part, on ne fait pas de super profit, on le remet dans le pot commun et le suivant peut profiter des mêmes conditions d'achat.
Dans votre regard comme ça que vous avez d'étendre à d'autres sphères de la culture digitale les logiques de pair à pair, vous allez jusqu'à ces nouveaux types de partis politiques qui sont en train de naître, je pense particulièrement à Podemos en Espagne, mais on pourrait penser aussi au mouvement Occupy aux États-Unis et puis Syriza en Grèce. C'est-à-dire que en quoi ces nouveaux partis, ces mouvements relèvent de la culture pair à pair.
Alors, donc vous avez mentionné Occupy et 15M par exemple. Pour moi, c'était des grands mouvements sociaux qui suivaient des protocoles open source. Donc c'était la production entre pairs de la politique. C'était vraiment des protocoles. Donc ce n'était pas une organisation classique du tout. C'était faire un camp sur un square, le mic check, les assemblées, c'était vraiment un protocole. Et en adhérant au protocole, on pouvait se dire Occupy ou 15M. Donc au niveau culturel, c'est vraiment important. La faiblesse, à mon avis, quand même, de ces mouvements, c'est qu'ils étaient anti-politiques. Donc ils n'ont pas voulu penser politique. Et quel est le résultat? Le résultat de 15M, c'est le gouvernement le plus à droite depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a complètement cassé l'état social. Donc c'est pire après qu'avant. Par contre, ça a mobilisé une jeunesse, ça les a rendus conscients. Ces gens sont rentrés dans leur quartier, où ils ont fait plein d'initiatives. Et certains d'entre eux ont dit, voilà, on peut pas ignorer la politique. Et c'est ça Podemos. Donc c'est la partie de 15M qui s'est dit, On s'est cassé la gueule, il faut engager l'État, il faut le faire changer. Et donc dans ce sens-là, c'est quand même des partis qui sont passés par cette moulinette du commun. Syriza, c'est un peu différent, c'est le Syntagma Square, donc ça c'est très très comme Occupy. Mais c'est aussi le mouvement de solidarité, Solidarity for All, donc c'est les 3000 initiatives de solidarité populaire qui ont été créées en réaction à la crise économique, et Syriza s'est impliqué dans ce mouvement constructif. Ce qu'il en fait aussi un parti très très différent des partis de gauche classiques.
Il me semble que certains éléments du programme de Syriza ont été aussi pris dans la plateforme de la fondation Peer-to-Peer.
Oui, alors c'est pas notre programme, c'est-à-dire que on a été engagé avec 6 chercheurs qui font partie du réseau de la fondation. Et je dis tout de suite, la fondation, c'est pas on n'a pas de membres, c'est un réseau. Donc c'est un nous, un mobile si on veut.
La logique du peer-to-peer.
Voilà. Donc avec 6 personnes, on a fait un projet de transition vers le commun pour des institutions équatoriennes. Et il y a des jeunes gens grecs qui sont venus nous voir. Et ces jeunes gens aujourd'hui travaillent pour le vice-premier ministre grec. Et donc il y a une partie du programme qui était repris, surtout sur la propriété intellectuelle. Mais ça va même plus loin parce que ce vice-premier a déclaré que le commun devrait être le modèle de développement du sud de l'Europe. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu anticipé. Je ne crois pas que dans la pratique ce soit déjà comme ça. Mais ça montre quand même qu'il y a une réflexion, que cette identité commence à devenir quand même réel.
Et aussi parce qu'en Grèce, du fait de la crise, la question des communs est revenue aussi dans le côté matériel, hein,
oui,
physique, c'est-à-dire les communs, les cantines, les questions d'hébergement et ainsi de suite. Peut-être un retour d'expérience sur le travail que vous avez mené avec d'autres auprès du gouvernement équatorien sur le projet de Flock Society. Et je crois que finalement, ça n'a pas vraiment abouti. Il y a eu comme une forme d'échec. Comment analysez-vous cet échec finalement d'un gouvernement qui est attentif, qui est intéressé, qui vous sollicite, et puis au final ça ne fonctionne pas?
Oui, c'est tout à fait vrai. Donc il y a une contradiction. Donc ils ont quand même financé ce projet, mais puis quand il était fini, après tout un processus participatif avec un sommet citoyen et tout, eh ben la plupart des propositions, à mon avis, pratiquement toutes en fait, sont bloquées dans les instances bureaucratiques. Moi, je suis parti en juin et il n'y a encore rien qui a bougé, sauf au niveau local avec des maires, etc.
Quelles étaient ces propositions? Quelques-unes peut-être?
Par exemple, je vais te donner un petit exemple. Il y a déjà un décret présidentiel par rapport à l'utilisation du logiciel libre dans l'État. Mais il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que la loi oblige le gouvernement à engager uniquement des développeurs qui ont un diplôme en sciences informatiques. Or, ces gens-là, ils sont aux États-Unis, ils gagnent 4 000 $, donc ils refusent de travailler pour l'État qui paye 1 200 $, je crois. Donc, par exemple, là, on avait une proposition d'un système d'accréditation ouvert qui reconnaît les vraies capacités de codeurs non diplômés. Donc, il fait le pont entre l'apprentissage informel et le système d'accréditation formelle. Ce qui aurait permis, par exemple, au gouvernement alors, d'engager ces jeunes qui savent coder, hein, c'est simplement qu'ils n'ont pas de diplôme. Alors, deuxième exemple, si le gouvernement équatorien passe de laboratoire scientifique basé sur de l'hardware privatif vers du open hardware, ils peuvent diminuer leur coût d'investissement par 7/8. Je ne rigole pas, hein, c'est sérieux. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent faire, je suis très mauvais en mathématiques, j'ai osé le dire, 8 fois plus de laboratoires avec le même investissement. C'est quand même intéressant.
Oui, il y a des gains, en fait, énormes. Enfin, il y a des économies oui, extraordinaires qui peuvent aussi permettre des gains de productivité. Voilà. Pour le coup, aussi intéressant parce que on s'aperçoit là aussi où c'est très intéressant sur... on voit quand il y a des problèmes de productivité aujourd'hui, on essaye de travailler sur la question des masses salariales, les coûts de production, en fait, humains. Ce que vous, d'une certaine manière, vous proposez, c'est des formes de coûts, de réduction des coûts de production, mais ailleurs, en fait, que sur les coûts humains. C'est aussi là où il y a des formes
intéressantes. Tout à fait, parce qu'il y a, dans notre système, il y a une rente extractive qui est énorme. Et sur les médicaments, on parle de 3 000, 4 000, voire 30 000 % parfois. Sur les livres scolaires, c'est, ça coûte 4 $ pour les imprimer, peut-être 8 $, mais on les vend à 80 $. Donc, cette propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est vraiment une machine à soustraire des revenus aux pauvres vers le monde financier.
Vous êtes aussi attentif à toutes ces dynamiques des villes en transition qui pensent une logique de relocalisation finalement, je pense par rapport aussi à la question de la campagne dans la ville ou ces formes-là. Mais en même temps, vous y êtes attentif et puis vous y êtes aussi un petit peu critique parce que vous essayez de penser à une échelle globale. Quand vous voyez que ces dynamiques de villes en transition, en fait, elles sont quoi, trop localisées?
Oui, alors je ne suis pas contre, mais je trouve que ce n'est pas assez. Donc je tourne ça d'une façon positive, ça ne sert à rien d'être contre, parce que le fait que les gens veulent reprendre leur autonomie au niveau local, le contrôle de la production de l'alimentaire et tout ça, moi je trouve ça très bien. Mais on vit dans des systèmes où le pouvoir est global. Donc c'est au niveau du pouvoir que c'est important. Donc si on ne s'organise pas non plus à un niveau global, on est en faiblesse par rapport aux multinationales qui peuvent mobiliser des ressources beaucoup plus grandes que nous.
Mais si le pair-à-pair, justement, il est à cette échelle globale, donc à une échelle aussi transnationale, et que finalement, les logiques de pair-à-pair, d'expert à expert, c'est hors frontières, bah, comment, voilà, que devient alors, l'État national, du coup?
Oui, alors, non, mais ce que je voudrais répondre d'abord, c'est que ce qu'on a déjà, c'est ça, c'est ce que vous dites. On a déjà aujourd'hui des communautés transnationales qui partagent la connaissance, le logiciel, ça existe déjà. Mais ce qu'on n'a pas, c'est des organisations matérielles. Donc, par exemple, moi, je suis pour les FILES, des écosystèmes mondiaux de soutien aux communautés et leurs communs. Alors, je crois que l'État, ça ne sert à rien d'être contre, parce que c'est déjà quand même un agrandissement de l'identité locale. Moi, je trouve ça positif. Et par exemple, en Grèce, je m'excuse, mais il faut reprendre l'autonomie monétaire. Hein, sinon, ce n'est pas les monnaies complémentaires qui ont en moyenne 95 personnes qui vont solutionner la crise grecque. Vous voyez.
Malgré le fait que le pair-à-pair, en fait, est d'une certaine manière au niveau transnational, il peut y avoir malgré tout des politiques partenariales au niveau national.
Tout à fait. Mais il faut démocratiser l'État. Il faut rendre l'État délibératif, participatif. Donc il faut la production entre pairs de la politique, en fait.
Et ça, on n'a pas le temps d'en parler, c'est dommage, mais j'invite les auditeurs, effectivement, à lire ce livre, hein, Sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer, parce qu'il y a aussi toute une réflexion autour d'une nouvelle organisation, d'une certaine manière, de la démocratie, hein, ce qu'on pourrait appeler la démocratie plus, c'est-à-dire de penser des assemblées des communs, d'une chambre aussi des communs. Il y a toute une articulation entre la démocratie représentative et la démocratie participative autour de ces enjeux du commun. J'aurais sans doute une dernière question avant de nous quitter. Il va y avoir bientôt à Paris la COP21, vous savez, la grande réunion Paris Climat, et on se dit de plus en plus ici à la radio que tant que on pensera uniquement en termes de climat, on ne pensera finalement rien. Que l'enjeu, c'est tout ce que vous dites finalement, c'est transformer la société à partir de ces logiques de pair à pair. Et que c'est cela en fait véritable problème.
La protestation, c'est pas assez. C'est-à-dire, c'est comme dans un couple. Si aussi longtemps que vous vous disputez, vous vous aimez encore. Mais le moment où vous cessez de vous disputer, c'est le divorce. C'est-à-dire, on n'y croit plus. Donc, la reconstruction, c'est ça. C'est-à-dire, on n'y croit plus au système. On va déjà reconstruire. Donc il y a un projet, je vais vite, c'est POC21, Proof of Concept. On va créer, c'est WeShare et OpenState vont créer pendant 5 semaines, ils vont mettre ensemble des systèmes open source de production pour en faire un écosystème et le présenter au COP.
Oui, parce qu'on pourrait se dire que sans doute qu'à la COP, il ne faudrait pas que des scientifiques sur le climat ou la biodiversité, mais il faudrait sans doute aussi des personnes qui témoignent de toutes ces transformations sociales.
Il faut changer de mode de production et donc ça, le COP le fera jamais.
Merci beaucoup, Michel Bowens, de nous avoir accordé ce temps sur les ondes de Radio Grenouille. Je rappelle ce livre, Les liens qui libèrent, sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer, un livre préfacé de Bernard Stiegler. C'est un livre d'entretien avec Jean Livens, une émission réalisée par Sébastien que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.
Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier.
Quand ?
Toujours la même heure.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Chouette.
Chouette. Le 13-30.
Et en podcast sur radiogrenouille.com.